Alors, maintenant, on va voir Monsieur Yannick Bertomio, donc qui supervise le groupe Signal et Images du laboratoire IMS de Bordeaux, qui va nous présenter le sujet intitulé Images dans tous ses états. Merci.
Ce que je voudrais essayer aujourd'hui de montrer, c'est qu'effectivement, le domaine de l'image a énormément évolué, du fait notamment des évolutions de capteurs, et que finalement, notre appréciation de l'image en termes de contenu d'information, eh bien, il est conditionné, mais qu'il faut avoir une certaine démarche scientifique vis-à-vis de cet aspect-là. Alors c'est intéressant parce que justement avec l'exposé de Chanel, on a vu des débats s'instaurer sur cet aspect image. Donc je vais commencer un peu par ça, pour dire que finalement, nous, vis-à-vis de notre sensibilité à l'image, ça remonte, je dirais, à notre histoire. Et du coup, on n'est pas neutre vis-à-vis de cette image, mais qu'il faut souvent essayer de voilà, départir et essayer d'instaurer un peu plus de mathématiques et de statistiques pour essayer de valider des choses vis-à-vis de ces contenus. Alors, tout d'abord, effectivement, pluralité des images. Donc, je vais commencer très, très, très rapidement. Je ne vais pas rentrer dans des débats ésotériques, mais juste, peut-être pour faire écho, mais je n'étais pas là, excusez-moi, ce matin sur les aspects. Images de science, mais je vais reprendre peut-être aussi des éléments de cela. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, l'image au sens icône, bah, ça fait partie de notre culture, hein, culture de l'humain. Donc voilà, donc on a créé des images, tout d'abord plutôt artistiques ou sociologiques, voilà, qui avaient un certain contenu. Bon, ça fait partie de notre histoire, hein, donc avec bien sûr une bien vieille histoire. Ce qu'on peut dire, c'est que l'image naturelle, au sens de la prise de vue, elle a une histoire plus récente, hein. Donc les premiers capteurs, bon, voilà, ils s'instauraient au 19e siècle. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu énormément d'évolutions pour arriver à des images de très haute qualité. Je veux dire, des images, voilà, qu'on sait construire, qu'on sait. Éventuellement modifiées. Alors, parallèlement à ça, bien sûr, l'image scientifique, elle a eu son parcours aussi, et avec finalement aussi une certaine évolution en termes de qualité de contenu qui nous ont permis finalement d'approcher des choses ou d'essayer d'exploiter des contenus en termes de forme, de texture, de couleur, etc. Donc, différents paramètres, différents attributs. Ou primitives de ces images pour essayer d'en sortir des informations que l'on va qui vont nous permettre d'améliorer les connaissances vis-à-vis de certains domaines. Alors, ce qui est sûr, c'est que philosophiquement aussi, elle fait partie d'une certaine évolution de notre culture. Ce qu'on peut dire, c'est que même les philosophes ont essayé de mesurer ou ont signalé finalement une certaine évolution de notre appréciation de cet aspect iconique. Et on peut dire que voilà, il y a certaines évolutions qui sont marquées de manière récente, hein, c'est vers le tout numérique, vers des masses de données à traiter, des masses d'images, etc., etc. Donc toute cette problématique s'offre à vous, bien sûr, hein, puisque futur doctorant, donc vous serez au cœur de toutes ces activités-là. Donc, alors. Ce qu'on peut essayer de parcourir, c'est en quoi l'image prise par un capteur, elle a évolué, hein. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, vous êtes très sensible à ces aspects-là, c'est-à-dire pour vous, l'image, elle circule beaucoup dans votre vie au quotidien. Vous avez plein de moyens, de réseaux sociaux, etc. Donc, avec quelques mesures où on voit effectivement une quantité impressionnante d'images qui circulent. Alors, vis-à-vis du scientifique, on peut se dire, ça peut, je dirais, pas pervertir, mais je dirais biaiser certains points de vue lorsqu'on va vouloir finalement exploiter ces images dans une prise de connaissance. Donc, le caractère de l'immédiateté, elle peut des fois être un danger pour justement produire des systèmes d'analyse d'images efficaces. Donc ça, c'est plus l'évolution de notre société, l'évolution de tout chercheur ou technologue qui va être sensible ou qui va être, conditionné par ces aspects-là. Une autre chose, on en a parlé aussi, c'est cet aspect image de science et puis image scientifique médiatique qui fait que on peut avoir tendance aussi à faire évoluer des contenus pour qu'il y ait un message qui soit plus pour finalement l'ensemble et qui peut amener aussi éventuellement à avoir tendance à amener les gens à faire plutôt du beau que du valide scientifiquement. Voilà. Donc ça, c'est des points de vue. On peut pas les nier. Donc il y a certains aspects. Et dans tout ça, comment avoir une démarche, je dirais, plus scientifique et plus validée. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'image, bien sûr, le capteur image, il a énormément évolué. Aujourd'hui, on a des systèmes d'image miniaturisés si on cherche à positionner un peu n'importe où ces capteurs-là. Il est partout dans notre quotidien. Okay, on peut l'embarquer sur des drones, etc., etc. Donc l'image est globalement partout. Le capteur image offre aujourd'hui une multitude de modalités. On en a vu quelques-unes. Parce que des choses que l'on pouvait observer dans le domaine du visible, maintenant, on peut aller au-delà, bien sûr. Donc on voit quelques exemples ici, différentes choses, que ce soit dans des images radar très haute résolution, l'imagerie médicale, etc., etc. Donc tout un tas de modalités. Des fois, on peut avoir intérêt à essayer de croiser ces modalités aussi, bien sûr, donc pour essayer d'enrichir encore nos systèmes de connaissances. Sur les aspects purement spectrales, vous savez tous qu'une image, c'est finalement une image couleur, c'est quelque chose qui est traduit globalement, on va dire, en trois bandes. Il existe des capteurs qui présentent des multibandes, qu'on appelle hyperspectrales, donc qui vont nous permettre, si vous regardez cette image-là qui est en niveau de gris, on fait une certaine intégrale de l'intensité lumineuse, et on a une valeur en chaque point ici, une seule. Donc les images couleurs, on sait qu'on va globalement en avoir trois. Et puis pour des images où on va chercher à qualifier les choses plus finement, on a la possibilité d'avoir des dizaines, voire des centaines de bandes disponibles. Donc ça fait encore plus de données à traiter, bien sûr. Donc voilà, pluralité dans les aspects spectrales, mais pluralité aussi en termes de résolution spatiale. On va chercher aussi à avoir des capteurs de plus en plus résolus du point de vue spatial. Ça peut nous aider éventuellement à aller sur des analyses plus texturales, donc des contenus, des micro-textures pour aller caractériser des choses. Donc pluralité en termes de résolution spatiale, qui peuvent amener bien sûr des systèmes où on va avoir de l'hyper-résolution pour comme ça avoir des choses qui peuvent être, de plus en plus précises spatialement. On a des systèmes, peut-être sur vos téléphones, vous les avez déjà, disponibles, les images dites HDR, qui nous présentent finalement des perceptions augmentées en termes de capacité de contraste, donc où on a une fusion finalement d'acquisition dans des contrastes divers et variés, et puis on a une agrégation pour une image augmentée en termes de contraste. Donc ça, c'est des procédés HDR qui commencent à apparaître un petit peu dans tous les systèmes classiques. Voilà, donc plein de possibilités d'images. Donc là un exemple, sur des capteurs 8 bits classiques, et puis ici, on a des systèmes dits HDR, où on voit, alors là, c'est un peu poussé, donc là, on parlait d'images retouchées, c'est une image un peu poussée en termes de rapport de contraste. Mais en tout cas, aussi en termes de qualité visuelle, des choses qui sont de plus en plus performantes. Voilà, donc on a parcouru les aspects spectral, spatial, etc., etc. Mais il y a aussi temporel, pour observer des phénomènes très rapides, il existe aussi des caméras un peu spécifiques où on va pouvoir observer des phénomènes très rapides, au prix bien sûr d'une quantité d'informations de plus en plus importante à traiter. Voilà, alors là on ne parle que de l'image au sens d'une information matricielle 2D, quoi, hein, donc sur un plan spatial, mais bien sûr on a toute l'artillerie des méthodes dites 3D, hein, donc par exemple, je vais essayer de lancer ce truc-là. Donc nous, par exemple, à Bordeaux, on travaille dans ce qu'on appelle l'imagerie sismique, donc où en fait vous avez des systèmes de typiquement d'échographie, hein, qui sont faits pour observer le sous-sol. Donc là, on a un volume de données qui représente en fait l'information de la couche terrestre. Et ce qu'on observe, c'est effectivement ce genre de choses-là. C'est-à-dire, vous voyez les strates du sous-sol. Et ces strates, du point de vue, enfin, du fait qu'elles aient des propriétés physico-chimiques différentes, eh bien, lorsque vous émettez une onde en surface, elles vont réfléchir de manière différente. Elles vont présenter un contraste qu'on observe à travers ces données. Donc typiquement, voilà, donc c'est vous avez des camions vibreurs qui vont émettre une onde et puis il y a un réseau de capteurs qui va permettre d'imager le sous-sol. Donc on récupère une information de ce type-là où vous voyez ici toutes les strates du sous-sol et puis toutes les anomalies géologiques vont pouvoir être observées et ce qu'on va chercher à faire, bien sûr, c'est de détecter ces anomalies par des algorithmes, etc., etc. Donc là, c'est de la donnée purement je dirais spatial, ben volume volumétrique. Là, actuellement, sur ce type d'image, on est sur des résolutions entre points, entre voxels de 10 à 12 mètres. Voilà, donc des choses que vous pourrez. Des échelles qui sont différentes de ce qu'on peut trouver en échographie médicale, par exemple, etc., etc. Donc voilà, une pluralité de capacités. Hein, donc je pense que. Aujourd'hui, effectivement, tous les domaines d'exploitation, soit industriels, soit purement scientifiques, exploitent l'image, donc toute sa diversité. Et là, on a vu que certains aspects, hein, parce que bon, tout l'aspect vidéo, l'aspect spatial, 3D, volumétrique, etc. On pourrait faire 2-3 heures que sur ça. Donc voilà, donc ce que je voulais montrer, c'était qu'effectivement, on a cette pluralité. De possibilités d'acquisition actuellement finalement peut-être le goulot d'étranglement actuellement c'est plus les aspects de traitement, hein, donc il y a beaucoup de choses à faire dans ces aspects-là, c'est-à-dire savoir proposer en fait des méthodologies algorithmiques qu'elles soient purement informatiques ou embarquées pour traiter ces multitudes de données qui éventuellement bien sûr peuvent être croisées entre elles. Voilà. Donc ça, c'est un peu le challenge qui va arriver, hein. C'est-à-dire, qui est actuellement là, c'est pouvoir valider, vérifier, certifier certaines réponses d'algorithmes, qu'ils soient automatiques, supervisés ou semi-supervisés. Alors, je vais faire un petit tour d'horizon sur quelques éléments de ces aspects-là. Bien sûr, je ne vais pas faire un court traitement d'image, hein, parce que sinon, vous seriez vite... barbé, hein, donc, mais je voudrais juste présenter quelques éléments. Alors, ce qui est sûr, c'est que le traitement d'image, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est finalement un ensemble d'opérations, hein, qui vont nous permettre, à partir d'une donnée, on va dire exprimée en pixels, quel que soit le nombre de bandes, la résolution spatiale, etc., etc., va permettre d'extraire soit des attributs qui vont traduire une certaine information. Donc là, typiquement, alors je viens de Bordeaux, donc c'est une parcelle de vigne, hein, donc, et on cherche à exprimer la vigueur de la vigne à travers un descripteur numérique. Voilà, et on peut, par exemple, sortir ce genre de choses-là qui, selon le code couleur, va indiquer que la parcelle, localement, elle est plus ou moins... vivace ou pas en termes de production de vignoble. Mais ça pourrait être aussi que des indicateurs scalaires ou vectoriels qui globalement traduisent un certain comportement. Hein. Ça peut être statistique, ça peut être des paramètres de modèle, etc. etc. Donc ça c'est l'aspect traitement d'image. Par exemple, si je reboucle sur les aspects volumiques, là, les aspects imagerie, l'imagerie sismique. Par exemple, pour les géologues, ça peut être intéressant de dire, ben voilà, si je cherche des réservoirs d'eau ou des réservoirs de pétrole, eh bien, ce que je cherche, c'est des formations particulières ou des événements géologiques particuliers qui signent dans la donnée. Et ce qu'on veut, c'est présenter au géologue pour qu'il puisse mener son analyse, éventuellement des informations valuées qui lui indiquent le potentiel, la potentielle présence de failles, par exemple, de réseaux de failles géologiques. Donc là, par exemple, vous avez ici une donnée et la réponse de l'algorithme va permettre de signaler, éventuellement, avec plus ou moins de force, plus ou moins de précision, finalement, la présence de cet événement ou pas. Donc ça veut dire qu'on conçoit des algorithmes qui vont finalement rendre compte finalement de la présence de l'événement. Alors, que l'œil ou que l'œil voit pas, ça dépend. Et toute la question est peut-être, enfin, la question n'est pas forcément là, mais en tout cas, elle va indiquer une certaine force de l'événement. Alors, ce qui est sûr, c'est que, mais vous en avez déjà parlé, hein, c'est que l'image numérique, elle peut être modifiée hein, par ces algorithmes. Hein, donc donc ça c'est le truc hyper connu. D'algorithmes de lissage qui vont garder certains événements de type rupture pour les contours. Hein. Donc on peut avoir des algorithmes qui permettent de modifier le contenu dans un certain sens ou falsifier. Hein. Donc c'est aussi une problématique de s'apercevoir que l'image elle-même a été modifiée pour garantir finalement un certain niveau d'intégrité. Donc tout ça, c'est du traitement d'image, hein, on englobe là-dedans. Alors, il y a une autre chose qui émerge beaucoup aujourd'hui, parce que dans le cadre de l'autonomie, robotique, etc., etc. on parle beaucoup de vision aussi. Hein. La vision, c'est plus finalement quelque chose qui est dédié à une analyse de scène générique. Et là, on a plus l'aspect finalement... information tridimensionnelle, hein, donc comment à partir d'images s'apercevoir ou appréhender finalement un environnement plutôt 3D et finalement là-dedans faire de l'analyse sémantique, faire de l'analyse un petit peu plus évoluée pour essayer justement d'aller vers des choses qui sont plus dans l'autonomie qu'on peut voir à travers les drones, les robotiques, l'automobile, etc., etc. Donc ça c'est la vision dite par ordinateur. Mais qui souvent exploitent aussi des éléments propres au traitement d'image. Donc les grandes classes de problèmes en traitement d'image, donc c'est toutes ces problématiques-là, et encore on n'en a pas fait le tour, hein, donc c'est pouvoir détecter des événements, classifier, segmenter, etc. etc. La question majeure, hein, c'est comment garantir finalement la pertinence de ce que vous êtes en train de restituer comme information en termes de véracité de ces événements que vous avez pu faire mettre en avant. Ça c'est un réel problème. Donc ça veut dire qu'il faut forcément avoir une certaine démarche, voilà, une démarche vis-à-vis de ça. Ce qu'on peut dire, c'est que bien sûr, là je fais appel à vos cours antérieurs, alors que vous avez peut-être apprécié ou moins bien apprécié, mais en tout cas, voilà, ça prend naissance dans la théorie du signal, le traitement du signal, mais ça va bien sûr vers d'autres aspects qui peuvent être liés à l'intelligence artificielle, par exemple, etc. Et donc les algorithmes qui permettent de décider. La thématique est assez récente, hein, donc globalement, on va dire, voilà, c'était au milieu du 20e siècle, hein, et on touche un certain nombre de choses qui au départ étaient plutôt empiriques et puis petit à petit on va vers des choses de plus en plus consolidées mathématiquement et statistiquement avec des passages je dirais assez reconnus, voilà, donc des quelques événements particuliers qui ont fait que voilà, on a renforcé notre connaissance vis-à-vis de tous ces secteurs d'activité, qu'ils soient pour reconnaître des caractères, faire de l'analyse de données d'imagerie, de télédétection, de la surveillance routière, de la métrologie, de la sécurité, etc. Donc tous les domaines d'application où on va disposer de moyens d'observation. Alors, ce qui est sûr, c'est que un problème majeur, c'est de pouvoir avoir une démarche, je dirais, pertinente vis-à-vis de tout ça, parce qu'on voit que bah, finalement, on a eu une petite discussion tout à l'heure, effectivement, l'image, elle peut être prise dans des conditions diverses et variées, quelle est sa validité, etc., etc. Donc ça, c'est toujours des choses qu'il faut, sur lesquelles il faut s'arrêter proprement, donc bien analyser la nature du problème, la variabilité finalement d'observation que vous avez, et essayer de la limiter si possible lorsque vous pouvez, bien évidemment. Et puis associé à ça, essayer de définir finalement un certain niveau de modélisation. Là, c'est, la modélisation, elle peut être plus orientée probabilité stochastique ou déterministe si vous avez des modélisations plus géométriques ou analytiques ou ce que vous voulez. Donc cet aspect-là, finalement, il est très important de bien maîtriser toutes les étapes ou essayer de circonscrire toutes les étapes pour vous amener à des algorithmes, je dirais, efficaces, encore que efficaces par rapport à quoi, il faut à tout prix essayer de se garantir en termes de validation. Donc quelle est la démarche de validation? C'est soit purement statistique, c'est des tests statistiques de validation, soit se confronter aujourd'hui, ce qui est un peu plus la tendance, c'est des bases de données, vérité terrain, etc., etc. Donc ça c'est une démarche qu'il faut absolument avoir. Alors ce qui est sûr, c'est que la problématique dans l'image, c'est que nous au quotidien, finalement on a un super cerveau qui marche bien, qui a appris depuis très longtemps, donc les conditions d'observation, on a appris à faire avec, voilà, donc on sait parfaitement reconnaître des événements qu'il est encore difficile d'exploiter du point de vue numérique ou en vision, on va dire, artificielle. Pourquoi ? Parce que effectivement, quand on est en milieu naturel, on a beaucoup de variabilité de conditions d'exposition, hein, et il faut trouver des moyens de finalement proposer des algorithmes qui soient relativement invariants à tous ces domaines de fluctuation, ou tout du moins qui puissent s'adapter. Donc ça c'est les problématiques majeures, parce que il y a effectivement une fluctuation en termes d'intensité de scène, comme on peut le voir ici, mais géométrique aussi, hein, parce que généralement, quasiment à chaque fois, l'image c'est un problème de projection 3D, 2D, donc il y a des variabilités géométriques, donc comment déployer des modèles qui soient capables finalement de proposer des réponses relativement invariantes à tous ces aspects-là. Alors, une fois que vous avez essayé de cerner un petit peu ça, il faut pouvoir exprimer le modèle. Soit vous avez des modèles qui vont être finalement des cascades d'opérateurs que vous pouvez identifier, par exemple un instrument qui a une certaine réponse impulsionnelle que vous savez qualifier ou que vous voulez estimer, enfin en tout cas un modèle direct où vous savez que votre donnée elle passe dans certaines étape de transformation, qu'il y a du bruit, et vous observez ça, mais ce que vous voulez reconstruire, c'est ça. Donc vous allez exprimer finalement une équation qui va vous permettre éventuellement de résoudre le problème vis-à-vis de ça. De la même façon, lorsque vous avez des multi-entrées, donc par exemple ici c'est un problème d'imagerie super résolution, hein, donc vous voulez obtenir une image augmentée de votre structure. Si vous connaissez partiellement un bout de la donnée à la résolution adaptée et totalement une information plutôt basse résolution, c'est comment modéliser ça du point de vue mathématique pour permettre de restaurer cette chose-là. Donc ça, c'est de la modélisation, hein, bien sûr, qui peut être abordée par différents biais, comme on a pu le voir. Le problème, c'est pour trouver la bonne solution, il faut généralement pouvoir finalement indiquer à votre système numérique les différents éléments qui vont particulariser votre objet. D'accord ? Donc, vous avez éventuellement un système d'équations qui vous décrit votre événement, vous essayez du coup d'y associer des éléments vous permettant de mieux le décrire. Alors, je ne vais pas faire un cours de proba ou de modèle stochastique, bien sûr, ce n'est pas l'objectif, mais c'est simplement pour vous dire, soit vous avez la voie probabiliste, si vous êtes, vous avez la chance finalement de pouvoir bien qualifier en termes de modèle paramétrique finalement votre événement. Donc là, par exemple, si vous imaginez que vous essayez d'analyser cette donnée multidimensionnelle, vous avez éventuellement des lois probabilistes qui, à travers quelques paramètres, vous permettent de décrire votre événement. Donc après, ça, c'est qu'un problème d'estimation de ces paramètres. Donc c'est un modèle de vraisemblance qui est assez simple. Bien sûr, l'histoire du traitement de données nous a montré que, éventuellement, si vous voulez encaisser de la variabilité, vous pouvez éventuellement définir ce qu'on appelle des priors, donc des modèles a priori sur vos paramètres pour leur permettre de pouvoir fluctuer. Typiquement, sur ce modèle gaussien, vous avez deux paramètres, la moyenne et l'écart type. Si vous dites, moi j'accepte que mon observation, finalement, elle est une moyenne qui fluctue selon un autre modèle, donc c'est la couche supérieure, si vous prenez une loi gaussienne sur la moyenne, ça veut dire que votre moyenne, elle peut bouger. Voilà, vous acceptez. Alors après, il faut développer des algorithmes qui vous permettent de calculer cette variabilité, mais en termes statistiques, on peut bien sûr le déployer. Alors, la question, c'est dans quel espace, finalement, il est intéressant de décrire la donnée ? Parce que soit vous gardez votre donnée d'origine, c'est-à-dire votre donnée couleur, votre donnée hyperspectrale, etc., etc., soit vous allez essayer d'augmenter l'espace de description, donc en séparant des composantes éventuellement de couleur, mais aussi d'échelle, donc d'événements, c'est-à-dire basse fréquence ou plus haute fréquence. Et donc là, vous avez des outils qui permettent d'augmenter l'espace d'observation. Et vous allez essayer, dans cet espace augmenté, finalement, de coller des modèles statistiques associés. Donc ça se fait, c'est bien connu. Donc là, on l'exploite assez aisément maintenant dans différentes applications. Donc là, par exemple, c'est une application où vous avez un forage qui va extraire des échantillons du sous-sol. Et tous ces échantillons-là, ils sont passés dans des scanners médicaux. Et on va donc pouvoir numériser et finalement discriminer les contenus à travers leurs contenus texturaux. Donc ça nous permet après éventuellement de segmenter les contenus à partir de ces modèles statistiques augmentés. Voilà, donc ça c'est des applications qu'on peut développer, mais les mêmes modèles, éventuellement on peut les déployer sur d'autres images. C'est ça qui est un peu la beauté du traitement du signal et du traitement d'image, c'est que vous n'êtes pas application dépendant. Donc éventuellement, vous pouvez bien sûr exploiter la même chose pour caractériser des images de télédétection, pour pouvoir séparer finalement des contenus de type forêt, des contenus de type vigne, des contenus de type ville, etc. etc. Avec bien sûr des variations de résultats selon la pertinence de votre modèle stochastique. Alors, d'autres voies, sont possibles au-delà du modèle stochastique. Donc, c'est ce qu'on a appelé les modèles plutôt déterministes, qu'on trouve, dans l'histoire du traitement d'image et du signal. C'est de dire, finalement, une donnée, voilà, si je sais, par exemple, si je suis dans un problème purement de débruitage, je peux modéliser, faire des hypothèses sur le bruit perturbant cette image-là, et je vais finalement définir une mesure de similarité entre l'image observée et puis l'image que je souhaite reconstruire sous certaines hypothèses. Et ces hypothèses, on les exprime généralement par des relations de contraintes ou de régularisation, un peu pour dire... l'information que je veux modéliser, finalement, elle a certaines propriétés. Donc, par exemple, c'est dans des propriétés qui vont dire que les informations de contour de ce que je cherche, bah, elles sont plutôt creuses du point de vue spatial. C'est-à-dire qu'il y a peu d'événements qui définissent le contour, haute fréquence. Donc ça, c'est les choses qui se sont pas mal développées les 10 dernières années, là, autour de ce qu'on appelait la parcimonie. Et typiquement, voilà, c'est une contrainte qu'on exploite et qui permet d'améliorer les résultats sous certains aspects. Donc, par exemple, on peut très bien développer des systèmes appliqués. Par exemple, là, ici, c'est une imagerie SAR. Donc, SAR, c'est du radar. Hein. Donc, pourquoi c'est intéressant, le radar? Parce que c'est des techniques d'observation qui sont pas gênées par tout ce qui est nuages, etc., etc. Donc, une certaine invariance ou insensibilité à certaines conditions météorologiques. Et la donnée brute, malheureusement ou heureusement, elle est, pour nous, elle présente un certain niveau de bruit qui généralement sont des multi-réflexions au sol. Tout à l'heure, vous aviez sur les présentations de Chanel là, sur ce qu'on appelait speckle, bah, c'est la même chose. Hein, donc c'est des multi-réflexions qui génèrent beaucoup de bruit. Et donc on peut développer des algorithmes qui permettent de restaurer cette information-là, à partir de tous ces systèmes d'optimisation où on va renforcer en fait la connaissance que l'on a de l'événement à travers différents termes d'attache aux données, de régularisation, etc. Alors, un des problèmes majeurs, c'est ok, on a des belles images, voilà, mais finalement, quelle est la vérité ou quelle est la véracité de ce qu'on observe? Parce qu'un algorithme, il va modifier, ça se trouve, il modifie de manière trop forte, ou il peut même injecter des fois des événements, hein, parce que le terme de régularisation, il a trop forcé, et ça peut poser des problèmes. Donc toujours, il faut s'attacher à essayer de se comparer à quelque chose qui a été plus ou moins validé. Hein, ça c'est la règle. C'est-à-dire, pour qualifier un résultat, par exemple ici de segmentation, ben voilà, j'ai deux techniques, elles me donnent des choses différentes. Ben moi, il faut que j'arrive à dire celle-ci est plus efficace que celle-ci, sous hypothèse ou sous, supervision d'un certain aspect. Alors, typiquement, par exemple, on va s'intéresser à des vérités terrain qui nous sont données par des experts. Donc ça, on va rechercher. Alors, par exemple, dans cette application-là, où on va s'intéresser à qualifier en fait les évolutions en termes de forêts, artificielles dans les Landes, il y en a plein. Donc pour pouvoir qualifier finalement les bonnes évolutions, les mauvaises évolutions de ces informations de type forêt, les experts d'abord définissent des classes en termes d'âge. Et vous voyez que ces classes d'âge, elles génèrent des textures très différentes, et nous on va développer des modèles pour essayer justement de particulariser finalement l'information spatiale en fonction de ces différentes classes. Là, la confrontation, elle est directe, parce que généralement on a l'information cadastrale, et là ça c'est je dirais relativement assez précis, et finalement on va qualifier nos algorithmes en termes de performance vis-à-vis de ces données. Mais cette donnée expert, des fois, elle n'existe pas. Hein. Donc, du coup, ce qu'on voit émerger fortement actuellement, depuis quelques années récentes, c'est finalement la constitution de bases de données, c'est-à-dire aller confronter finalement des résultats à travers des bases de données qui ont été constituées justement pour l'évaluation. L'évaluation en termes de détection d'objets, en termes de nature de texture, etc., etc. Donc, dans notre communauté scientifique, il est important de pouvoir se confronter à ces bases de données qui sont disponibles internationalement pour justement montrer finalement les évolutions en termes de performance de ces différents algorithmes. Voilà. Donc, ça, c'est des choses aussi qu'il faut exploiter lorsque vous voulez développer des algorithmes que vous puissiez qualifier. Donc ces bases de données, on y trouve aussi des annotations, hein, donc ou des vérités terrain. Donc là, par exemple, c'est pour des aspects plutôt cartes de profondeur. Ça, c'est des cartes de déplacement. Ça, c'est de la segmentation. Bah, tout ça, c'est aujourd'hui disponible. Alors bien sûr, ça a ses limites, hein, puisque ces bases de données, elles ont été constituées. Donc elles ne peuvent pas être exhaustives, mais au moins se confronter à ce type d'informations, je dirais, un peu particulières, ça permet de garantir certaines choses. Et donc à partir de là, ben, il faut trouver des indicateurs, des mesures de similarité, comment mesurer les réponses des algorithmes en termes de qualité de restauration. Donc par exemple, là vous avez, je dirais, une image dégradée, et on restaure cette image. Et on va proposer une mesure qui va nous dire, ben voilà, en termes de rapport signal sur bruit, de mesures quantitatives, eh bien la performance de l'algorithme s'améliore. En termes de détection aussi, donc qualifier finalement la variabilité de la réponse, le niveau de qualité de la réponse en termes de détection, c'est bien sûr primordial pour nos aspects. Donc par exemple, ici, je vous avais parlé de décomposition multi-échelle. Lorsqu'on s'attaque à la qualification de finalement de ces différentes textures, on voit que ben, passer dans des domaines où on puisse exploiter les phénomènes d'échelle et d'orientation dans ces données spatiales, ben, ça améliore fortement les résultats. Voilà, donc là, on quantifie finalement les performances. Alors, pareil, hein, donc vous voyez ici, ça c'est une base de données qui est dédiée à l'estimation de mouvement. Bah là, on voit toutes les propositions des algorithmes qui se confrontent à ces données et leurs performances. Voilà, donc du coup, pour un industriel, c'est aussi une source intéressante parce que s'il cherche un algorithme avec telle capacité en termes de d'estimation et généralement aussi d'implémentation, hein, puisque vous savez que vous pouvez faire ça sur des petits composants ou sur des GPU, c'est bien sûr pas du tout les mêmes technologies, les mêmes capacités. Mais ces algorithmes-là, ils peuvent être, je dirais, soit dédiés à des cibles plutôt, on va dire, basse consommation, et d'autres cibles plus élevées. Mais en tout cas, voilà, donc des éléments qui quantifient les performances, ça c'est primordial. Donc, on va dire que actuellement, si je fais abstraction des aspects vérité terrain dur, ce qu'on voit, c'est que les actions s'orientent sur effectivement maîtriser les acquisitions de données au sens de la variabilité de l'exposition, au sens de variabilité de l'expérience, de pouvoir, si possible, c'est le terme de curation, mais c'est celui qui est utilisé, de développer des bases de données consolidées dans ce sens-là, bien sûr dans un objectif de la validation, hein, et puis entre les deux, bien sûr, proposer des algorithmes d'analyse qui vont être quelque part, justement, qu'on peut, je dirais, qualifier. Alors ça pose certains problèmes, hein, effectivement, parce que la mise à disposition de données, ça, c'est quelque chose qui peut être délicat vis-à-vis d'applications et notamment de partenariats industriels, hein, où les industriels, des fois, ça peut les freiner parce qu'il y a des données sensibles, éventuellement. Mais ce qu'on voit, c'est quand même une tendance à l'ouverture, l'open data, hein, parce que, justement, ça permet souvent de démultiplier les efforts et, finalement, les développements efficace autour de ça. Voilà, alors, du coup, je me suis dit, tiens, un truc qui résonne pas mal actuellement, c'est tout ce qui est dans le domaine de l'apprentissage. Donc, j'ai voulu en parler. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous montrer un peu le cheminement qu'on a eu autour des évolutions en termes de traitement d'images et de perception de ces évolutions aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez sûrement vu partout des articles sur l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones. Donc ça c'est quelque chose actuellement qui émarge beaucoup. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, la problématique de l'apprentissage, elle est d'intérêt, puisque même nous, on est conditionné par notre apprentissage. Donc les systèmes, c'est un peu normal qu'on s'intéresse au problème de l'apprentissage. Alors en traitement d'image, l'apprentissage, il n'est pas récent, hein. C'est quelque chose qui date, on va dire, quelque part vers les années 70, un peu plus tard même. Donc l'idée globale, c'est de dire, bon, ben voilà, j'ai une base de données, je vais extraire sur mes images en fait des éléments caractéristiques, et puis je vais passer ça dans une moulinette qui va me permettre d'extraire à partir de ces caractéristiques finalement des éléments, je dirais, descriptifs. Et je vais avoir une comparaison avec la donnée qui rentre, hein, sur lequel je dois, moi, décider l'appartenance en termes de label ou de classe. Donc ça, en traitement d'image, c'est des choses qui se sont développées beaucoup ces dernières années. Bon, les points clés, c'est juste pour dire, c'est voilà, donc le truc assez basique en termes de compréhension, c'est de dire, bah, finalement, l'information visuelle, moi, je vais la traduire en termes de dictionnaire, de mots visuels, ouais, pour permettre, donc, à partir de ces éléments saillants, là, de dire, bien, c'est une moto, parce que dans mon dictionnaire, j'ai ces éléments qui me disent, effectivement, ceux qui sont sélectionnés correspondent à une moto. Alors, la question, c'est, effectivement, comment construire ces descripteurs? Donc là, il y a toute la panoplie, on va dire, des techniques de décomposition géométrique, spatiale, etc., etc. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est on va extraire de manière régulière, dense ou creuse, en fait, ces descripteurs numériques sur la base d'histogrammes, de gradients, etc., de vecteurs, etc. Donc ça nous donne un ensemble qui décrit la donnée. Et là-dedans, on va essayer d'isoler en fait des mots-clés. Donc ça, c'est une technique de traitement de données assez classique, hein, donc où on va essayer d'identifier des mots plus ou moins explicatifs. Bon, ceux qui connaissent, par exemple, les algorithmes K-moyenne, etc., etc., dans leur version basique. Et à partir de là, à partir de ces dictionnaires en sous-nombre, eh bien, on va redécrire la donnée, hein, dire ce mot-là, il appartient à celui-là, et comme ça, on a une certaine description, on peut en extraire des statistiques, etc. Donc ça a été, on va dire, les 10-15 dernières années, beaucoup de traiteurs d'images se sont concentrés sur l'expression de ces descripteurs. Donc, à partir de là, on a conçu des systèmes donc, où on faisait passer effectivement des bases de données dans des outils de décomposition. L'image d'entrée, on l'a décomposée sur ces bases extraites et on pouvait en déduire des choses plus ou moins validées. Alors, depuis quelque temps, on voit apparaître par exemple ce qu'on appelle le deep learning ou la représentation profonde. Donc globalement, c'est quoi ce truc-là? C'est à peu près ce que je viens de décrire, hein. Sauf que, bien sûr, on a défini une certaine hiérarchie d'empilement de ces bandes filtres, hein. Donc ces réseaux de neurones artificiels, ils exploitent finalement des bandes filtres et des systèmes de non-linéarité pour aider à la décision. Donc on prend des données de base de données, on en extrait des bouts, on fait de l'apprentissage, et à partir de là, on a des exemples qui sont très performants en termes de reconnaissance. Donc ça, des architectures, ça a amené des architectures un peu particulières, mais qui du point de vue du traitement d'image sont connues depuis déjà une vingtaine d'années. Donc ce qu'on voit, c'est que effectivement aujourd'hui les technologies permettent de manipuler ces grandes outils de décomposition, et c'est ça qui en fait le succès aujourd'hui, c'est-à-dire cette capacité de déploiement qui dans leur dimension aujourd'hui permettent d'avoir des systèmes qui sont opérationnels. Donc les plus beaux exemples actuellement, c'est bon, il y en a plein. Hein. Donc, par exemple, dans l'aide à la conduite, on a des choses. Je vais accélérer un peu. Où à partir de systèmes multicaméra, on fait de la conduite quasi automatique. Bon, bien sûr sous certaines conditions, qui permettent à la fois de capter l'environnement. Et puis de contrôler finalement l'évolution du véhicule. Alors, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que très bien. Bon, effectivement, c'est une belle réalisation. Ce sont des belles réalisations, mais tout n'est pas pour autant résolu. Hein. même ceux qui sont au cœur de ces systèmes-là reconnaissent qu'il faut prendre ça avec précaution parce que, d'une part, on ne connaît pas bien finalement les comportements internes de ces grands réseaux. Hein, vous avez vu, si je reviens, voilà, des espèces de réseaux imbriqués comme ça, qui, d'un point de vue optimisation, finalement se comportent de manière un petit peu mystérieuse en termes d'analyse fine. Hein. Bien sûr, analyse globale, ça va, mais analyse fine, ça peut. On ne sait pas trop comment ils évoluent. Alors, donc ça pose certains problèmes. Ce qui est sûr, c'est que si on s'intéresse à l'analyse de ces systèmes-là, ce qu'on peut dire, c'est que si on fait l'analogie avec cette évolution de connaissances, c'est-à-dire un enfant, il fait une connaissance de modèle, puis il fait l'acquisition du modèle. Voilà, ça on y est avec ça. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, extrapoler à partir de ces informations-là, c'est-à-dire sur les processus de généralisation et de planification, ça, par contre, on n'y est pas du tout. Hein. C'est un champ qui reste, bien sûr, à exploiter. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a plein de cas où le système se plante complètement, plein de cas qu'on connaît, hein, parce que généralement, il leur faut beaucoup d'exemples finalement à noter sur des scénarios très précis. Et alors que nous, lorsqu'on regarde cette image-là, on se trompe pas, quoi. Mais ces systèmes-là peuvent très bien se tromper. Et ça encore, ça pose beaucoup de problèmes au niveau de leur exploitation. Ouais. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, aujourd'hui, on a pluralité d'images, pluralité de capteurs. On est encore loin de pouvoir garantir finalement les véracités en termes de résultats. Et il faut toujours avoir finalement une démarche rigoureuse en termes de qu'est-ce que j'observe, est-ce que j'ai le droit de le modéliser, comment je le modélise, et surtout, je dois garantir les performances de mon système. Donc, ne perdez pas de vue finalement cet aspect-là, hein, de quantifier les résultats et de savoir finalement le positionner vis-à-vis de l'existant. Voilà. Bien sûr, les enjeux de demain sont nombreux, hein, à travers d'énormes applications qui vont être extrêmement exigeantes en termes de quantité de données et où l'image forcément a une place très importante. Voilà.
Merci.
Des questions ?
Donc vous avez montré dans la vidéo là de la voiture autonome, on voit qu'il y a une certaine compréhension de la scène. Donc on détecte des voitures, et j'imagine que c'est des méthodes basées modèles, genre pour détecter
les voitures. Apprentissage.
Donc c'est basé apprentissage,
oui,
ça.
Oui, okay. Oui, non, il n'y a pas de modèle.
D'accord. Et donc comment vous voyez le futur ? Est-ce que vous le voyez Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt vers tout ce qui est apprentissage, donc réseau de neurones et autres, ou plutôt des méthodes où on dit, on va modéliser une voiture et on reconnaît une voiture mathématiquement et...
Je pense qu'il n'y a pas une réponse à ça. Enfin, c'est sûr que le réseau de neurones il propose une solution actuellement qui convient pour certains aspects. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'industriels qui se mettent à développer ça très fortement. Hein. Google, Microsoft, on a vu tous ces investissements colossaux qu'ils font actuellement. Parce que, indéniablement, hein, sur certains aspects, ça marche. Voilà, on peut pas le nier. Le prix à payer, c'est souvent d'être contraint par des scénarios très établis, par des bases de données très très enrichies, etc., etc. Mais je dirais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on laisse tomber toute la panoplie des modèles et de l'expertise, parce que à un moment donné forcément il va y avoir un équilibre. D'ailleurs on commence à le voir hein, dans la communauté image. J'en ai pas tellement parlé parce que c'était pas le lieu, mais tous les modèles addictionnaires qui exploitent. J'ai mis ça au moins. Qui exploitent ce genre de choses-là, là. Donc ça peut très bien être exprimé en termes de modèles, hein, de modèles stochastiques. Généralement, ce sont des lois de mélange, des choses comme ça. Ça, jusqu'à l'avènement, là, enfin jusqu'à l'explosion un peu du deep learning, c'était ce qui se faisait de mieux en termes de système de reconnaissance. Hein, c'est ce qu'on appelle les ficheurs vecteurs. Hein, donc c'est des vecteurs qui décrivent la donnée à partir de ces modèles stochastiques. Qui étaient d'ailleurs à la pointe, notamment à l'INRIA, tous ces grands instituts. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est justement essayer de trouver l'équilibre. C'est-à-dire, ils réexploitent ces modèles sur la base de descripteurs qui sortent de réseaux de neurones. Donc, on essaye de croiser, quoi. Voilà. Donc, il y a des évolutions, ça, c'est sûr. De toute façon, tout le monde le dit. Même les grands acteurs du deep learning, ils le disent. Hein, dans les années 70-80, l'échec de l'intelligence artificielle déjà a été très, très illustrative, et donc ils ne veulent pas retomber dans le panneau. C'est-à-dire que la presse ou les médias ont plutôt tendance à surenchérir sur ces systèmes-là, mais il y a encore énormément de choses à faire. Et on ne peut pas laisser tomber l'aspect modèle, ça c'est sûr. Et la connaissance aussi des algorithmes d'optimisation, c'est-à-dire... ces schémas-là, ils utilisent des systèmes d'optimisation, je veux dire, un peu cachés, quoi. Ouais. Mais il y a énormément de choses à faire dans ces systèmes d'optimisation aussi. Meilleure connaissance, quoi.
Ok, merci.
D'autres questions ?
Alors moi, je suis en tant qu'utilisateur de traitement d'image. Donc moi je vais qualifier plutôt de méthode à la mano qu'en utilisant des filtres, etc. Je voulais savoir si entre cette méthode...
Si c'est pas à la mano, si vous maîtrisez enfin, bien vos filtres. Hein,
enfin je veux dire, il y a toujours un choix subjectif de seuil, de paramétrisation des filtres en question. Et pour le coup ma question c'est de savoir entre cette méthode-là et la méthode que vous montrez, notamment deep learning... Et apprentissage par bibliothèque, laquelle est la plus répétable en fait ? J'imagine que ça doit être beaucoup plus répétable et beaucoup plus fiable si vous avez quelque chose de répétitif sur des grosses bases de données, pour le coup.
Ouais, enfin, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que dans un système de traitement, ce qu'on veut, quand on veut, c'est qu'il y ait le moins de paramètres possible qui permettent de faire varier la réponse de l'algorithme. Voilà. Donc essayer de limiter le nombre de paramètres et si possible finalement on puisse garantir des réponses en fonction de différents jeux de paramètres, quoi. Voilà. Donc ça c'est un objectif. C'est sûr que la base de données éventuellement elle peut permettre de mieux qualifier éventuellement le jeu de paramètres que vous manipulez et leurs fluctuations et leur impact. Voilà. Je dirais ces techniques là elles sont pas en opposition avec ce que vous dites parce qu'elles ont aussi des paramètres. Généralement, de toute façon, il n'y a pas de méthode sans paramètres. La question, c'est de savoir maîtriser ces paramètres quand on voit ça. Voilà, donc si vous vous intéressez actuellement aux architectures qui existent en deep learning, bah, on vous dit il faut faire un x2x2, ici 5x5. Pourquoi ? Je veux dire, ça, c'est pas. Voilà, eux aussi, ils ont leurs problèmes, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais une réelle difficulté, c'est effectivement de pouvoir sortir des méthodes dans lesquelles on puisse maîtriser les paramètres. Voilà. Et ça passe par une connaissance de votre donnée, de votre application, d'essayer de bien maîtriser votre application.
En fait, ce que j'entends par là, c'est par exemple, vous avez des images réelles d'une expérience, par exemple, et vous allez faire une série d'acquisitions dans le temps. Donc avoir une évolution du phénomène qui va peut-être entraîner du bruit, etc. Et donc pour le coup, si vous appliquez, vous voulez faire un script d'automatisation du traitement de toute cette série d'images, vous n'aurez pas les bons résultats en fait. Vous serez toujours obligé de refitter les paramètres en question. Et est-ce que dans le cadre de deep learning, vu que là vous me parlez de par exemple, de paramètres globaux, entre guillemets, en mettant plus ou moins de couches de neurones.
Ouais, mais c'est pas propre au deep learning. Si vous arrivez à avoir des descripteurs, ce que vous cherchez généralement à avoir, ce sont des descripteurs justement qui sont plus ou moins variants. Par exemple, à des phénomènes d'échelle ou des effets d'éclairage. Donc c'est plus dans la conception. Voilà, donc c'est ce qu'on va chercher. Hein. Donc là, ici, dans ces techniques-là, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des descripteurs en prenant, par exemple, des aspects multi-échelles dans l'image, pour pouvoir construire des choses qui permettent d'être invariantes. Eux c'est, enfin, le deep learning ou les méthodes associées, ce qu'elles ont, c'est que, comme elles travaillent, je dirais, par couches qui elles-mêmes intègrent des aspects spatiaux et d'échelle, elles sont plus ou moins elles-mêmes également invariantes. C'est qu'elles construisent des descripteurs également invariants. Mais ça, c'est des propriétés que l'on connaît, mais qu'on va chercher. Donc, c'est sûr que quand vous faites du traitement d'image, vous devez penser à ça, toujours. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, et comment je peux obtenir des degrés d'invariance qui permettent de fiabiliser le système. Voilà. Soit par des jeux de paramètres, soit par des intégrations. Voilà. C'est la difficulté.
D'autres questions ? Merci.
Avant de laisser François vous présenter l'activité qui termine cette journée, donc qui n'est pas une conférence, pour ceux qui sont logés à l'hôtel ce soir, vous avez tous compris que vous êtes à l'hôtel de l'Europe, et vous savez où c'est ? Oui ? Sinon, demandez à Google, puisque Google a appris, on le sait tous. Vous avez aussi un repas prévu aux rues auxquelles vous étiez ce midi, c'est un buffet qui est prévu, il n'y a pas de contre-marque à déposer. Ce qui fait que si par hasard l'un ou l'autre d'entre vous qui n'était pas inscrit a envie de s'incruster, ça ne posera pas de problème. Voilà. François ? Évidemment, si tout le monde vient, ça veut dire que le rue est meilleur que ce qu'il était à mon époque. Je te laisse présenter ton activité. Je pense que sur cette activité, vous serez invité à vous lever pour venir participer.
Oui, moi je vais certainement vous demander de vous lever, de venir participer, de venir tester. Je vais vous présenter deux ou trois dispositifs, on va voir le temps qu'on a pour le faire. J'expliquerai exactement comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. demain matin. Là, ce que je veux, là c'est vraiment, on va essayer de se vider un peu l'esprit par rapport à toutes les conférences que vous avez eues aujourd'hui. Et on va essayer de travailler et de voir ce que c'est déjà qu'un eye tracker, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Donc je vais vous parler de suivi du regard et on va tester différents dispositifs. Donc juste le temps que je démarre tout ce qu'il faut et après il va me falloir au moins un volontaire si possible qui ne porte pas de lunettes. Ça fait pas mal.
Alors oui, on peut devenir à l'heure.
Tu n'as pas avoir besoin.
Ok. C'est
le temps que je démarre.
Pour temporiser encore un peu. Donc demain matin, nous recommençons à 9h avec à nouveau François Le Cédier qui nous fera un bilan de cette activité d'eye tracking, c'est bien ça ? Oui. Et pour terminer la matinée avant le retour en bus prévu à 11h et quelques, nous aurons quelques exposés de cours de doctorants, donc exposés et surtout présentation des posters que vous avez vus dehors, donc des présentations de 10 minutes non spécialisées de préférence qui permettront de discuter à nouveau des présentations qui ont été proposées. Autrement dit, quand est-ce qu'on mange, c'est ça ?
C'est ça.
Oui, ok. Eh bien, je crois qu'ils vous attendent à partir de 18h30.
C'est bon, donc je vais demander à notre cobaye de s'installer. Donc, sur l'écran de l'ordinateur, donc j'ai fixé un eye tracker. C'est un appareil qui permet de suivre le regard. Ça fonctionne avec des infrarouges, c'est totalement sans danger. Il va falloir être bien devant. Le petit point qui se promène, normalement, c'est la direction du regard, mais là, il n'est pas du tout calibré. Donc, la première chose à faire quand on utilise un eye tracker, c'est de le calibrer en fonction du regard de l'utilisateur, le calibrer en fonction de la personne qui va être là. Donc, là, c'est la position des yeux. Et il va falloir fixer un point jusqu'à ce qu'il explose. Il n'a pas été... Faut bien le fixer, c'est peut-être un peu loin. Faut peut-être se rapprocher un tout petit peu. Voilà, c'est mieux. Ah, là, faut vraiment le fixer. Il y en a encore trois.
Je fixe.
Oups. Alors... Ah, ça marche. Alors, il y a des petits bugs, hein, c'est normal. On va réessayer quand même. Voilà. Naturellement, hein, faut se poser assez naturellement sur l'écran, sans trop bouger la tête, sur tous les yeux. Là, c'est mieux, là. Voilà, c'est bon. Donc l'étalonnage est effectué, donc ça a permis de déterminer... Bravo. C'est pas grave. Donc l'étalonnage a permis en fait de calculer une matrice de transformation entre la direction exacte captée par l'eye-tracker, j'expliquerai comment ça fonctionnera demain, et la position du regard. Donc maintenant, normalement, si tu t'approches un petit peu et que tu regardes, ça doit, le petit rond bleu doit se placer là où tu regardes. Il doit suivre ton regard, à peu près. Hein. C'est à peu près. Alors, c'est pas évident. Et ce qu'on va faire... Hop là. C'est bon, tu peux te rapprocher. Et là, le cercle, en fait, c'est l'endroit où tu regardes. Donc, si tu peux défiler hein, avec la souris pour éventuellement continuer à lire le dossier, lire le rapport. Là, c'est simplement la liste des journaux dans lesquels il faut publier pour avoir de sa qualification. Donc, je trouve ça pas mal. Et on voit vraiment la direction du regard à chaque fois, là où ça va. Donc, si on va, par exemple, sur ce texte-là, on voit la façon dont le texte est lu. Et on voit bien la direction, donc il va bien de gauche à droite, etc., pour la lecture.
Je lis en diagonale.
Alors, le cercle est volontairement assez gros. Là, c'est vraiment à des fins de démo qu'on utilise ça. Les eye trackers sont nettement plus précis que ça. On a des précisions quasi pixeliques. Pendant qu'il est en train de lire, je vais redémarrer.
On pourrait l'installer pour le jour du passage du permis de conduire.
Ah ben on peut s'en servir dans plein de choses.
Si vous n'avez pas bien regardé, je dis non, regardez.
Alors, bien sûr, hein, si d'autres personnes veulent se lever, venir tester, etc., on peut tester pour d'autres. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un seul cobaye. Et là, avec le fixe, même des gens qui portent des lunettes peuvent venir essayer.
C'est bon pour moi ?
Oui, c'est bon. On l'essaiera après.
Okay.
Du coup, c'est la même calibration pour tout le monde ?
Non, c'est pas la même calibration. Il faut recalibrer pour chaque personne. Hop là. Donc on relance une calibration et puis voilà, on peut applaudir. Alors il y a des jeux qui fonctionnent avec l'eye tracker, hein, ça existe, mais je les ai pas mis là. J'ai pas joué avec. Alors il y a des jeux, par contre c'est extrêmement fatigant. Il y a un petit jeu qui existe, qui a été développé, je verrai si j'ai le temps. Le récupérer, je l'avais quelque part, je ne sais plus où exactement, mais c'est un jeu qui permettait de faire à peu près la même chose, hein, faire exploser des points quand on les fixait, mais il fallait les fixer trop longtemps, si bien que plus d'une minute, ça, on avait l'impression d'avoir utilisé une demi-heure. Quoi. Bon, on reste hein, sur le même document, avec ici... C'est assez déstabilisant. On a tendance à regarder la bulle plus que le dire. Là, c'est simplement pour que tout le monde voit ce qui se passe, hein, parce que normalement, ça se met pas comme ça en surimpression. Nous, on l'enregistre et après, on dépouille les données. Je vous expliquerai demain exactement comment on les dépouille. On va juste switcher d'application. C'est bien parce que tous les volontaires n'ont pas de lunettes. Donc, alors, ça, c'est des eye trackers donc, qui se posent devant l'ordinateur. C'est un système assez basique. Et on a aussi des eye trackers sous forme de lunettes qui, là, cette fois-ci, se portent directement comme des lunettes standards.
Alors,
installer ça. Oui. Ce qui est bien en plus, c'est que c'est très discret hein, comme système. Un petit peu, ouais. Sauf que sur ces lunettes-là, on ne peut rien afficher.
C'est pas du tout envahissant en plus.
Non. C'est pénible. J'aime beaucoup l'effet démo. Décidé de m'embêter. Bon, je vais continuer à chercher pourquoi ça bug. Alors, en attendant, les lunettes vont fonctionner. Hein, elles ont toujours fonctionné. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. J'ai un autre système. Celui-là se fixe. Alors, les eye trackers tels qu'ils sont, que ce soit celui-là ou l'autre que je vais vous montrer tout de suite, ça peut servir à plein de choses. Déjà, donc à analyser la direction du regard pour vérifier différentes choses, et surtout, ça peut être adapté à différentes tailles d'écran. Donc là, vous voyez que je l'ai adapté pour la taille. Ils sont adaptés pour des tailles d'ordinateur. Celui-ci, même s'il est un peu plus petit que l'autre, est adapté sur des tailles d'écran qui vont jusqu'à cette taille-là, du moment que ça reste dans le champ visuel de la personne. C'est-à-dire que je peux directement poser, alors il faudrait calibrer en fonction du vidéoprojecteur, mais je peux directement poser l'eye tracker devant, sur un pied devant le au niveau du vidéoprojecteur. Tant que ça reste dans le champ visuel, on va pouvoir utiliser l'eye tracker pour pouvoir vérifier aussi sur tout un mur. Les lunettes de leur côté, normalement, servent quand on est sur des conditions totalement de mobilité. Donc quand on va vouloir aller se balader, aller visiter une exposition par exemple, aller suivre un cours en amphi, écouter une conférence, pour vérifier déjà la direction du regard, voir comment le regard se promène, etc. Donc là, si vous voulez vous approcher, là tout le monde, enfin, vous allez pouvoir tous vous lever pour venir voir déjà les différents types de matériel, et j'essaie de débugger les lunettes pendant ce temps-là. Donc s'il y en a qui veulent venir voir à quoi ça ressemble de plus près, vous pouvez vous approcher.
C'est le moment de bouger un peu.
Voilà, c'est le moment de bouger. On avait prévu de vous faire danser, mais il n'y a pas de place.
Je sais pas, c'est la première fois qu'elle me fait un bruit.
Je vais réactiver celui-là pour qu'on voit ce que ça donne. Là.
On peut carrément avec certains
certains systèmes, on peut carrément le contrôler. Je dois même avoir. Ah, j'ai validé autre chose.
C'est quoi les applications de ce genre?
Alors, il y en a plein d'applications, la pub. Alors, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est?
Où est l'arrière?
Je cherche. Non,
c'est la visée dans les autres
choses.
Que tu regardes ce que les
gens. Non, c'est carrément un eye tracker. Ça, c'est vraiment un eye tracker, mais un peu plus petit.
Que. Après, t'as aussi la visée des avions qui sont maintenant comme ça, où tu peux verrouiller juste avec le regard, parce que t'as pas besoin de mettre tout manipulé en même temps.
Ouais, ça va fonctionner.
C'est quoi comme capteur à l'intérieur?
C'est des capteurs infrarouges. Là, si tu regardes le tube, il bouge. Si tu le regardes pas, il bouge pas.
Ah ouais, c'est bon.
Oh, c'est facile, là, on voit où on regarde, donc c'est facile, mais... Et là, attention, alors, là, normalement, donc, il va partir très vite, mais si tu le regardes, il va partir. Il s'en va. Il fuit ton regard.
Il est plus là?
Ah bah oui, bah il disparaît au bout d'un moment. J'ai pas le... Je vais le remettre. Donc si d'autres veulent tester, hein, vous pouvez vous relayer. Je vais juste désactiver le...
Ça suit la position de ton gris?
Oui.
Ça analyse, hein. Ça prend
des calculs. Alors l'objectif, là c'est vraiment que je vous présente les différents appareils. Donc c'est les appareils de fil yoga. Je vais expliquer tous les usages qu'on a, parce qu'il y a énormément d'usages demain matin. Là, je fais du recueil de données pour vous montrer un peu et puis pour changer un peu de la conférence.
Là, je me sens con. Là, je me sens con, voilà. Il ne tourne pas mon cube.
Il ne tourne pas.
Il ne tourne pas mon cube.
On est frustré, hein, oui. Quand il ne tourne pas.
Décalé,
ouais. Non, c'est parce que, en fait, j'ai
pas lancé
je pense que j'ai désactivé l'eye tracker. C'est tout à fait logique. Ouais, je me suis trompé, j'ai désactivé l'eye tracker au lieu de désactiver le guest house. Donc d'autres peuvent venir voir, essayer de faire tourner le cube. Pendant que j'essaie de voir pourquoi lui il veut. Je vais juste vérifier si elles sont connectées. Elles ne se connectent pas. Yes. Je vais juste déconnecter les lunettes.
Et Tobi, c'est le nom de la société.
Tobi, c'est le nom de la société qui commercialise ça. Donc, c'est les fournisseurs de l'université de Poitiers. Donc, tout le matériel qu'on a est Tobi, mais il y en a tout. Il y a SMU et Tobi. Alors, je travaille pas du tout pour eux. Je travaille avec eux parce que le matériel, c'est les derniers. Dernier modèle de ce qu'ils proposent, mais je ne travaille pas du tout pour eux, je ne fais pas de la pub. Moi, c'est le fournisseur d'université, donc je n'ai pas le choix. Je suis obligé de passer par eux, mais derrière, on peut tout à fait.
Qui vend ça, les applications complètes.
Si d'autres veulent s'asseoir et regarder, il faut peut-être s'approcher un petit peu plus. Non, là, ça ne doit pas être calibré. Il trouve les yeux déjà, c'est bien. Commencez. Là, normalement, non, ça c'est la
vie. Le pilote de chasse existe déjà. Par exemple, le chauffeur, s'il veut changer d'armement.
Non, pas tout à fait.
Tu veux faire attiser un point,
si tu veux
avoir un fixe sur un.
Ah, ouais, c'est pas calibré.